Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec à la coordination ce matin Sophie Catherine Gallet, à la réalisation Massimo Bellini, à la prise de son Jean-Michel Bernaud. Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 5 novembre. Merci à ceux qui nous écoutent tôt le matin à la radio et à toutes celles et tous ceux qui sont abonnés au podcast du Réveil Culturel pour pouvoir nous écouter quand ils veulent, s'ils veulent. Podcast et écoute en ligne, bien sûr, disponible sur franceculture.fr. Tous les lundis, on parle de littérature et des nouvelles parutions en librairie. Aujourd'hui, on va faire un dernier point avant les prix littéraires de l'année. Vous le savez, mercredi, c'est-à-dire après-demain, seront décernés le Goncourt, le Renaudot, et puis ensuite, il y aura tous les autres prix littéraires de la saison. Alors, cette année, pour le Goncourt, il ne sont plus que 4 à concourir. David Diop pour Frères d'âme, aux éditions du Seuil. Paul Gravillac pour Maîtres et esclaves, chez Gallimard. Nicolas Mathieu pour Leurs enfants, après eux, édité chez Actes Sud. Et enfin, Thomas B. Reverdy pour L'hiver du mécontentement, édité par Flammarion. On aurait aimé que notre invité du jour, François Valéjeau, et son hôtel Weilheim soient maintenus dans cette liste. Je vous dis ça parce qu'il a été retenu par la première et même deuxième liste du Goncourt. Il ne l'est plus. Ça n'empêche pas que ce livre soit un livre merveilleux qui nous a beaucoup plu à moi et à ma partenaire et amie Auriane Jeancourt du magazine Transfuge, qu'on retrouvera à la fin de l'émission. Mais tout d'abord, honneur à Hôtel Weilheim et à François Valéjeau. C'est parti.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Est-ce qu'il vous arrive de recevoir encore des cartes postales? Je veux dire par là, est-ce qu'il vous arrive, en ouvrant votre boîte aux lettres, de trouver autre chose que des factures et des prospectus? Dans le dernier roman de François Valéjeau, le narrateur reçoit une carte postale, une vieille carte postale qui plus est. Et d'emblée, on sait que ceci est étrange. On sait que ceci appartient au passé, appartenir au passé. Voilà une bonne piste pour entrer dans ce beau roman, dans ce beau thriller édité par Viviane Amy, Hôtel Weilheim. Bonjour François Valéjeau.
Bonjour Toufik Hakem.
C'est un thriller, on peut le dire?
Alors, au départ, ce n'en est pas un. En tout cas, il n'y a pas le projet d'en faire un. Et puis, peut-être qu'au bout, il y a au moins quelques ressemblances, quelques attaches avec le thriller. Donc, pourquoi pas?
Alors, c'est parti d'où cette idée de remonter dans le passé de l'Europe? Parce que ça va être très difficile de parler de votre roman, de dire tout le grand bien qu'on pense de ce roman. Quand je dis « on », j'inclus Auriane Jeancourt du magazine Transfuge qui est avec nous aujourd'hui.
Absolument.
En faisant très attention, parce que comme dans un bon roman avec une chute que le lecteur attend avec impatience, dans ce livre où il y a pas mal de fausses pistes, comme le genre, justement, l'impose. Et quand je parle de pistes, j'ai même envie de parler de pistes skiables.
Piste de ski, oui.
dans ce roman, est-ce que ce roman est parti aussi d'une envie de parler de l'Europe, du passé, pas si lointain que ça, de l'Europe à l'époque où il y avait encore le rideau de fer?
Oui, il est venu d'abord de l'envie de parler de ma propre adolescence à ce moment de l'histoire et de le retrouver justement inscrit dans une partie un peu orientale de la Suisse, c'est-à-dire tout près de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est, et sujet qui me préoccupait à ce moment-là et que j'ai vu ressurgir avec le thème des archives de la Stasi qui ont été ouvertes et reconstituées dans les années récentes. Et d'un seul coup, pour moi, c'était une sorte de reviviscence ou de renaissance d'un passé à travers ces archives ou l'image de ces archives, et donc j'ai voulu les réinscrire dans cette histoire de ma propre jeunesse.
Pourquoi? Parce que c'était très présent dans votre jeunesse?
Oui, c'était le monde Est-Ouest nous semblait une sorte d'univers qui ne finirait jamais. Et donc, c'était cette image qui était à la fois en arrière-fond, qui n'était pas forcément le moment où c'était le plus intense, mais c'était une espèce d'arrière-fond éternel. Et c'était un petit peu ça que j'ai voulu dire.
Est-ce que Jeff Valdera, donc le narrateur de votre roman, Hôtel Waldheim, vous ressemble un peu, François Valéjo, a vécu quelques moments que, tels que décrits dans ce roman? Est-ce que vous lui avez prêté votre expérience, vos souvenirs d'adolescent?
Oui, exactement. C'est vrai que le personnage de Jeff Valdera a un nom qui commence comme le mien et finit autrement. Mais c'est cette manière de commencer comme moi, je dirais, qui est aussi l'indice par lequel j'ai voulu m'introduire dans l'histoire. C'est vrai que la Suisse, Davos, 16 ans, j'y étais. Les personnages que j'ai vus, que j'ai utilisés, ce sont des personnages tout à fait authentiques. Donc il y avait une matière, il y avait une manière aussi de parler de la vérité, donc à la fois de ma propre vérité, pour m'interroger sur la vérité de cette époque.
Bon, et c'est quoi la vérité, justement, aujourd'hui, quand il s'agit de rétablir la vérité dans un contexte du passé?
Justement, la vérité, elle est complètement multiple, parce que c'est à la fois la vérité du souvenir, mais la vérité du souvenir, c'est forcément une erreur, c'est forcément partir de travers. Et puis, c'est se confronter à la vérité d'archives, c'est-à-dire la vérité de textes écrits dès l'époque et qui paraissent justement eux authentiques, alors qu'ils sont peut-être encore plus truqués que la mémoire maladroite d'un simple humain.
Alors, c'est une carte postale que le narrateur reçoit au début, une carte postale qui représente donc effectivement ce décor qui a été le décor de son enfance, de son adolescence, Davos, vous venez de le dire, François Valéjo. Il y a juste une phrase qui accompagne cette carte postale. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose?
Oui, c'est en plus une phrase mal écrite, mal orthographiée, mais elle est en même temps familière, et donc c'est vrai qu'elle est énigmatique pour toutes ces raisons. Et de fait, c'est quelque chose qui existe, enfin ça lui rappelle vraiment quelque chose au sens propre, mais ce n'est peut-être pas ce qu'on attend de lui. Il se rappelle autre chose que ce qu'on veut bien lui demander. Il se rappelle peut-être une autre vie que celle qu'on veut lui mettre sous les yeux.
Et puis tout le reste, c'est comme dans un suspense hitchcockien, parce que ce narrateur va se poser la question, et cette carte postale qui l'interpelle, la personne qui lui envoie cette carte postale va lui poser une question qui va le troubler, à savoir qu'il n'était pas si innocent que ça dans cet hôtel. Il aurait pu être manipulé par des services secrets à son insu.
Oui, c'est toute la question qui va construire le roman, parce que face à ses propres souvenirs, qui sont des souvenirs assez anodins, assez innocents, assez à la fois joyeux et ennuyeux, on vient lui proposer d'un seul coup des personnages, des relations entre des personnages qu'il est supposé avoir vus, puisqu'il a parlé avec ces gens, il a vécu avec eux, et ces gens-là avaient une autre histoire que celle qu'il croit. En tout cas, on le soupçonne même d'avoir masqué sa propre connaissance des relations entre les gens pour se mettre à l'abri peut-être, ou en tout cas pour s'innocenter de quelque chose qu'il aurait pu commettre.
D'autant plus que dans ce drame politique, un homme disparaît.
Et oui, un homme disparaît, même plusieurs. L'un meurt juste deux semaines après ses vacances, apparemment sans histoire, et un deuxième disparaît au moins de Suisse et d'Europe de l'Ouest. Donc, qu'est-il devenu? C'est vrai que l'adulte d'aujourd'hui à qui on vient demander ce qu'est devenu cet homme-là se retrouve bien embarrassé.
D'autant plus que le monde a changé depuis.
Oui, l'Est-Ouest est tombé, et donc lui n'avait pas du tout envie de parler de cette histoire à ce moment-là. En tout cas, c'est pour lui quelque chose de mort aussi, et même ses souvenirs étaient morts. Et d'un seul coup, il y a une façon de revivre la vie, et c'est ça. Peut-être la remontée du souvenir n'est pas une remontée véritable du souvenir, c'est carrément une remontée d'une autre vie, c'est-à-dire une vie, peut-être la vraie vie qu'il a peut-être vécu et qu'il est obligé de reconnaître, et au point de douter de sa propre non seulement mémoire, mais aussi n'a-t-il pas caché, n'a-t-il pas effacé ce qui aurait pu être gênant.
C'est édité chez Viviane Ami, Hôtel Waldheim de François Valéjo, un extrait lu par l'auteur.
Notre instant de trouble passé, je me dégage, retrouver mon autonomie mentale, malgré le bouillonnement intérieur provoqué par l'accumulation et le mélange des vins. Cette personne m'est étrangère, étouffons toute envie. Parlons froidement. Je ne vais pas lâcher le morceau comme ça. J'ai ma version, je la maintiens, ma dernière semaine à Davos, les derniers jours de ma vie, dans cet endroit que j'ai fini par aimer. Ce n'était pas la catastrophe que Frida s'obstine à me mettre sous le nez. Tout n'était sans doute pas aussi heureux que je le voudrais, mais pas pour les raisons qu'elle croit. Si Monsieur Steigl allait mal, je m'en suis moins préoccupé que du spleen de ma tante Judith. Je ne devrais pas m'y attarder, tu t'en fous de ma tante Judith. Mais après ce qui vient de se passer entre nous, cette esquisse de liaison presque dangereuse, c'est idiot. C'est l'image de ma tante Judith qui s'impose, pas celle de ton père. Elle avait le spleen, ça, j'en ai gardé le souvenir. Un mot ancien, le spleen, daté, mais encore usuel, me semble-t-il, à la fin des années 70.
Voilà, l'histoire se passe en 1976. Enfin, l'histoire qui remonte en surface. Les événements qui sont au centre de l'intrigue de Hôtel Waldheim se passent en 1976. C'était il n'y a pas longtemps et c'était déjà dans un autre monde. Bonjour Oriane Jeancourt.
Bonjour Toufik.
Alors vous-même, c'est un coup de cœur partagé avec le magazine Transfuge que ce roman de François Valéjou.
Oui, ce que j'aime bien dans ce roman, et on l'a entendu dans la lecture que vous venez d'en faire, c'est la médiocrité du narrateur. C'est-à-dire que sans cesse, il ne cesse de dire que son histoire ne vaut rien, que lui-même ne vaut rien. Et c'est justement là où il nous dit que ça vaut rien, par exemple l'histoire de cette tante Judith, qu'il méprise lui-même à 15-16 ans au début du livre, eh bien est en fait un très beau personnage de femme qui est peut-être passée à côté de sa vie. Et voilà, il y a cette délicatesse comme ça du personnage bas, du personnage que je trouve très, très juste dans ce roman.
Alors, ces personnages, justement, François Valéjou, vous voulez peut-être réagir?
Oui, c'est vrai que ce personnage de garçon de 16 ans est méprisé au départ par le narrateur devenu adulte qui se dit qu'il ne s'aimait pas, qu'il n'aimait pas ce garçon, qu'il le trouvait un peu veule, un peu prétentieux. Enfin, et il lui donne tous les défauts possibles. Enfin, c'est son regard sur sa propre adolescence. Et c'est vrai que toutes les accusations qui vont venir à son propos au fur et à mesure vont peut-être être une manière de le racheter et d'un seul coup de découvrir qu'il y avait aussi des qualités chez ce garçon, que peut-être il était en train de commencer à vivre quelque chose qui allait l'amener jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a cette image aussi de rachat, et y compris le rachat de sa propre tante. C'est vrai qu'il prenait pour une vieille fille justement encore affublée d'un spleen du 19e siècle. Et d'un seul coup aussi, c'est une manière de faire non seulement revivre, mais de racheter ces gens.
Alors, puisque vous utilisez ce mot « racheter », François Valéjou, la question que se pose le lecteur en lisant ce roman « Hôtel Waldheim », c'est aussi de se poser la question de « on est qui à l'âge de 16 ans ? Est-ce qu'on est un adulte ? Est-ce qu'on est responsable de tout ? Ou au contraire, on reste quand même un enfant manipulable, manipulé à souhait ?»
Moi, je crois qu'il est tout ça à la fois, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il a tout de même cette caractéristique des années 70, c'est-à-dire de se vouloir assez théoricien déjà, assez intellectuel, tout en ayant 16 ans, il est déjà lecteur de Lévi-Strauss, il a déjà cette matière, donc.
Il est surtout confronté à des adultes.
Il est confronté à des adultes, mais il se veut à leur hauteur déjà. C'est-à-dire que donc il se projette dans la situation d'être déjà quelqu'un qui est capable de défendre un point de vue face à des adultes. Ce que lui reproche d'ailleurs sa tante en utilisant encore un vieux mot comme le spin, qui est voilà, tu te prends pour un homme fait. Bon, et c'est un peu la même image et le même vocabulaire. Et donc il est en train de se projeter dans une situation d'homme fait, justement, d'adulte, de quelqu'un qui maîtrise la situation, et quand on lui met le nez dans ces affaires-là 40 ans plus tard, et d'un seul coup, c'est vrai que ça le dérange, parce que il a envie de se dire qu'il n'était quand même qu'un adolescent et qu'il n'a pas maîtrisé quoi que ce soit, qu'il n'a rien compris à ce qui se passait. Et c'est malgré tout, cette façon de ne rien comprendre était peut-être aussi une façon de mieux comprendre comprendre les choses et les gens. Donc ça, c'est peut-être aussi ce qui lui donne du prix.
Qu'est-ce qui distingue justement le côté documentaire de la fiction, par exemple? Si on devait parler juste du lieu de cet hôtel Waldheim, est-ce que c'était vraiment un lieu où on pouvait faire sortir des hommes et des femmes qui voulaient fuir le système de la RDA pour les passer à l'Ouest, comme on disait à l'époque? Oui. Ça, c'est documenté.
Ça, c'est documenté. C'est vrai que il y a eu à l'époque, par exemple, une espèce de personnage un peu cinglé qui faisait. J'ai utilisé son image à un certain moment du récit, où quelqu'un circule en RDA avec des camions avec des bêtes sauvages, et au retour, il ramenait des gens cachés derrière les grilles, des animaux sauvages, des fauves. Et une fois qu'il était passé, évidemment, les douaniers ou même la police secrète avait du mal à aller voir derrière ce genre d'animaux. Et il en a fait sortir comme ça plusieurs dizaines avant de se suicider.
Et ça, vous l'avez appris à l'époque des faits, c'est-à-dire quand vous étiez adolescent, en 76, par exemple, comme le personnage de votre roman, François Valéjo, ou c'est après coup?
Ça, je l'ai appris après coup. Oui, exactement. Et parce que c'était justement des éclairages qui sont venus postérieurement sur le fait que il y a eu des échanges, y compris en Suisse. Il y avait tout un système d'influence, il y avait tout un des intellectuels qui justement étaient des représentants de la RDA officieusement, au moins, et qui défendaient des points de vue les points de vue communistes traditionnels, mais en tout cas qui étaient là, qui étaient mandatés pour le faire. Donc il y a eu quelques intellectuels même parfois connus, qui ont pu jouer ce rôle. Donc c'est vrai que la Suisse n'était pas un pays totalement neutre, au moins par ses habitants, quelques-uns étaient dans l'action.
Et pourquoi avoir choisi cette période, revenir sur cette période, c'est-à-dire la période de la guerre froide?
Parce que justement, c'était pour moi quelque chose d'important, et le fait précisément qu'elle semblait être notre seul horizon à cette époque-là, et c'est ça qui m'a marqué. Je crois qu'à un moment je fais le parallèle avec l'islamisme radical d'aujourd'hui, qui semble être notre seul horizon à certains moments, et qui nous semble être promis aussi à une longue durée, et même quand il est un peu plus faible, à un niveau plus faible selon les périodes ou les mois, et quand il remonte, il redescend, mais c'était un petit peu la même situation. Donc pour moi, c'est une sorte d'équivalent la guerre froide aujourd'hui, et donc c'est en parler dans les années 70, c'était une manière de se resituer encore par rapport à aujourd'hui.
Hôtel Waldheim de François Valéjo, c'est un roman qui a été remarqué, y compris par tous ces jurys qui décernent les prix littéraires. François Valéjo, comment vous vivez ça, le fait que votre livre ait été retenu par plusieurs liste?
Je vis cela comme d'abord au moins un moment heureux où quelques regards se posent sur un livre, parce que pour moi ce qui est important c'est un livre, c'est ce livre là, donc que des regards de quelques jurés se soient posés dessus, mais c'est pour moi suffisamment important. Que ça présente quelques aspects inquiétants aussi, c'est tout à fait compréhensible, mais...
C'est-à-dire, vous vivez comment?
Non, c'est-à-dire que il m'arrive le matin de me réveiller en me disant, tiens, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà, qu'est-ce qu'on me veut? Voilà, c'est ce mélange d'angoisse et de plaisir qui est assez agréable.
Et enfin, pour terminer, pour revenir sur le sujet principal de votre dernier roman édité chez Viviane Ami, Hôtel Waldheim, François Valéjo, qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce que vous avez gardé de vos colères, protestations d'adolescents?
Oui, c'est vrai que le personnage est aussi un révolté de ce temps, mais c'était un révolté peut-être de jeu, c'est-à-dire l'époque aussi voulait qu'on soit révolté. Alors j'en ai gardé au moins le regard ironique.
Ah bon?
Oui, c'est-à-dire que le fait de savoir me révolter, mais en sachant que il faut jamais trop se prendre au sérieux, même dans la révolte.
Merci d'être passé ce matin, François Valéjo.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Nina Hagen, effectivement, pour parler bien sûr de cette période. Maintenant avec vous, Oriane Jeancourt, on va parler des autres livres et puis de ces prix, puisque c'est après-demain qu'on aura le Goncourt, le Renaudot et les autres prix littéraires suivront tout de suite après.
Oui, c'est vrai, Toufik, mais je vous avoue que je ne suis pas suspendue à mon fil internet pour savoir qui aura les prix, parce que je trouve que le suspense n'est pas haletant cette année. Les listes des prix, je dois le dire, ne sont pas très enthousiasmantes, et ce n'est pas une pause de transfuge, mais particulièrement à la liste du Goncourt, il y a des livres qui nous plaisent. Hein. C'est vrai que des livres goncourisables, des livres, c'est-à-dire qui sont à la hauteur des grands Goncourt qu'on a aimés, comme Marie Ndiaye, comme Mathias Sénard, qui sont des Goncourt qu'on a beaucoup soutenus à Transfuge.
Éric Cavuillard aussi, l'année dernière, c'était un bon livre.
Absolument. Eh bien là, on n'en voit pas sur la liste. Et donc, voilà, de cette liste, depuis d'ailleurs sa première version, est quelque chose qu'on n'a pas bien compris à Transfuge, parce que certes, il y avait une volonté affichée hein, de mettre des premiers romans, de mettre des jeunes, de mettre des premiers romans féminins. Pourquoi pas, on ne va pas s'en plaindre. Mais bon, évidemment, la première question doit demeurer quand même la qualité du roman. Et était quand même assez surprenant de voir qu'il y avait des grands noms, des gens qui travaillent, des gens qui construisent une œuvre, qui sortaient des livres à la rentrée et qui ont été totalement mis de côté de cette liste. Je pense par exemple à Christine Angot, je pense par exemple à Nathalie Léger qui a fait un des très beaux livres de cette rentrée. Je pense, ça a été beaucoup dit, mais à Philippe Lançon, bien sûr, même s'il est sur d'autres listes, ce n'était pas une raison. Enfin, je veux dire, ça aurait été un des très très beaux Goncourt, à mon sens, que de le donner à ce livre qui nous a tous extraordinairement marqués. Voilà, pourquoi enlever ces grands noms? Pourquoi absolument, donner la place à des outsiders? Oui, bien sûr, il faut des outsiders. Il y a parfois de très grands outsiders, mais pour des outsiders, pour des outsiders. Ça n'a pas de sens, à mon avis. Le principe est quand même de saluer non seulement un bon livre, mais aussi un écrivain français qui construit une œuvre.
Alors, toute liste confondue, quel est le prix rêvé, souhaité par vous, Oriane Jeancourt? On ne va pas parler seulement du Goncourt, on peut parler aussi bien du Renaudot, du Fémina.
Écoutez, alors moi, vraiment, vous savez qu'à Transfuge, on a une appétence pour la littérature étrangère, et vraiment, le livre qui est pour moi un des trois meilleurs livres de la rentrée, c'est Les Frères Lehmann de Stefano Massini. Alors, on en a un peu parlé. Stefano Massini, c'est un dramaturge italien qui a eu beaucoup de succès dans toute l'Europe avec différentes pièces, et notamment avec une première pièce sur les Lehman Brothers. Et là, il en fait un roman, Les Frères Lehman. C'est absolument stupéfiant. Alors, c'est écrit en octosyllabes, donc comme une épopée classique. Et c'est toute l'histoire des Lehman Brothers, c'est-à-dire depuis leur arrivée aux États-Unis au 19e siècle, donc les premiers frères Lehman qui étaient fils de paysans et qui arrivent, qui ouvrent leur première boutique aux États-Unis, et puis leur deuxième boutique, et puis qui ouvrent une banque, politique, et puis qui peu à peu s'instaure comme les rouages premiers, les rouages centraux du capitalisme spéculatif américain.
La saga capitaliste.
Donc vraiment la saga Lehman, écrit donc dans cette forme extrêmement fluide, extrêmement musicale, et avec quelque chose du grotesque, de l'ironie, et c'est bien ça la force de Stefano Massini. On a l'impression d'être à la croisée, si vous voulez, de Fassbinder et des monstres de Dino Rizzi, c'est-à-dire qu'on ne cesse de rire. Ces personnages, c'est Lehman qui au début sont des commerçants consciencieux, deviennent des rois du monde, mais des rois du monde complètement délirants. Et c'est bien là, évidemment, ce qu'essaye de nous faire voir Massini, c'est ce délire grotesque, cette danse ubuesque du capitalisme au XXe siècle, ce qu'il est devenu, peu à peu l'argent qui ne signifie plus rien, la crise de 29 qu'il raconte avec énormément de verve. Enfin voilà, ça c'est évidemment un des grands livres pour moi de cette rentrée. J'espère vraiment qu'il va avoir le Féminin étranger. Il a déjà un succès européen et mondial, donc je ne m'inquiète pas pour Stefano Massini. Les frères Lehman aux éditions du Globe.
Merci Oriane Jeancourt, à bientôt.
À bientôt.